Intelligence artificielle en éducation, un avenir transformé. Salut à toi, bienvenue sur Leader dans l'enseignement catholique, le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton école, ton collège ou ton lycée. Prêt ? Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Leader dans l'enseignement catholique. Et aujourd'hui, épisode que j'allais dire un peu imprévu, sur lequel nous allons parler d'intelligence artificielle ou d'IA. Et donc avant de commencer un échange avec Jean-Philippe, chef d'établissement et formateur, eh bien voyons voir un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors très rapidement, il s'agit d'une branche de l'informatique, tout d'abord, hein, qui cherche à développer des machines capables de réfléchir, d'apprendre et d'agir de manière autonome, et elle touche de nombreux domaines. Alors en éducation, l'IA peut prendre différentes formes, comme des systèmes d'apprentissage personnalisés, des outils d'analyse pour les enseignants. L'objectif est d'utiliser la technologie pour améliorer l'expérience d'apprentissage et préparer les élèves à un avenir intégrant l'IA. Mais pour nous, chefs d'établissement, à quoi cela peut-il bien servir? Donc dans cet épisode, avec Jean-Philippe, nous allons explorer eh bien, ce qu'il a préparé pour sa formation sur l'IA et nous allons discuter de ce que ça peut, en quoi ça peut aussi nous aider. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Peux-tu commencer par nous dire comment on devient Jean-Philippe Solané Moulin? J'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans la prononciation de ton nom.
C'est parfait. Comment on devient Jean-Philippe Solané Moulin? D'abord, on est enseignant au premier degré, puis après, on devient chef d'établissement par conviction, par envie, par plaisir, parce que c'est du plaisir. Hein. Ça fait 5 ans que je suis chef d'établissement premier degré sur l'Immaculée Conception à Méru. Et on a des projets numériques, projets éco-école, une équipe dynamique qui bouge, qui cherche à progresser, à avancer, et on avance ensemble, et ça c'est super.
Et pour préciser, ton école le comprend combien de classes?
Alors, 10 classes de la toute petite section au CM2, et on est on est un ensemble scolaire, il y a un collège aussi.
D'accord.
Un collège qui va de la 6e à la 3e avec 4 classes par niveau. Voilà, donc on travaille pareil de façon très collaborative, notamment au niveau numérique. Là, on a installé sur l'établissement des Chromebooks. Je ne sais pas si tu connais
les fameux ordinateurs avec l'OS de Google.
L'OS de Google. On a refait un peu l'infrastructure numérique au niveau du Wi-Fi, par exemple, de façon à avoir un accès partout dans l'établissement. Enfin voilà, donc on avance bien aussi au niveau numérique, progressivement, mais sûrement avec la formation des enseignants qui va te perdre avec l'acquisition des outils numériques.
Et donc tu as assuré une formation sur l'intelligence artificielle pour des professeurs de lycée, c'est ça?
C'est ça, voilà. Donc il n'y a pas très longtemps, là, c'est au mois de janvier. Donc c'est la première formation organisée notamment par l'ISFEC de Paris autour de l'IA. Et donc j'ai été appelé un peu pour une expertise autour de l'usage de l'IA d'un point de vue pédagogique, mais aussi dans nos usages, on va dire, administratifs, professionnels en tant que chef d'établissement et voilà.
Donc, Sans dévoiler tout le contenu de ta formation, qu'est-ce que les enseignants ont pu découvrir et apprendre?
Alors, c'était d'un point de vue, par exemple, ça va être pour l'intelligence artificielle. Donc là, on a quelques outils, on avait quelques outils à disposition, notamment ChatGPT, Bard, qui sont, ou Copilot, qui sont les grands, les grands outils actuellement développés par les différents organismes, vous avez, enfin, chez Google pour Bart, ChatGPT, donc qui permettent, à partir d'un questionnement, d'un ce qu'on appelle un prompt, d'avoir, en fait, ça va générer un écrit ou une image à partir de ce qu'on va proposer, à l'IA. Donc, je vais prendre un exemple très simple au niveau de l'image, par exemple, où vous allez proposer la description d'un personnage ou d'un lieu, et l'IA va se charger de réaliser l'image en lien avec ce que vous avez produit initialement. Là, le prompt que vous avez produit, l'écrit que vous avez produit. Donc, en fait, on produit un prompt et ça va vous réaliser quelque chose. On peut aussi produire, l'IA générative va aussi produire de l'écrit. L'exemple concret, vous souhaitez rédiger, par exemple, un court roman, voilà, ça va, vous allez donner les idées principales et ça va être capable de vous générer un écrit littéraire, voilà. Donc là, tout ça, ça peut effectivement, pour l'enseignant, être un outil assez efficace. Je prends un autre exemple concret. Vous avez, je prends en CM2 par exemple, ou en CM1, enfin dans les classes du cycle 2 ou de cycle 3, vous avez des mots de dictée par exemple, donc vous avez une dizaine de mots de dictée. Et vous allez demander à l'IA de rédiger une dictée à partir de ces mots, et elle va être capable de vous rédiger donc une dictée en reprenant l'ensemble des mots. Et vous allez pouvoir insister, par exemple, pour le cycle 3, mettre un peu de passé simple et d'imparfait. Ça va vous mettre du passé simple et de l'imparfait. Et ça va même être capable de vous rédiger des dictées un petit peu différenciées en mettant, avec le plus de, par exemple, passé simple, imparfait, puis après uniquement rédiger la dictée au présent, en réduisant peut-être la complexité pour pouvoir différencier. Donc, en fait, c'est des tâches que nous, humains, on peut faire, mais qui, en fait, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, d'optimiser finalement nos pratiques. Voilà pour les quelques petits exemples possibles. Donc, rédaction de dictée, de prompt pour créer des images. Là, on fait décrire un élève et hop, l'image va être produite en fonction de sa description. Voilà, un petit peu pour l'aider. Ça peut l'aider aussi à superviser la production d'un écrit, hein, de l'accompagner, en fait, pour rédiger, par exemple, le schéma actantiel, d'écrire un personnage. Voilà. Donc, en fait, on soumet ça à l'IA, et l'IA va nous aider, va générer ce type de production.
Ok. Donc là, donc tu es parti des outils qu'on peut trouver en ligne gratuitement, et puis les enseignants ont cherché aussi par eux-mêmes à trouver des usages. Quoi.
Des usages, voilà. Il y a des chatbots, par exemple. Donc, des chatbots, c'est des ChatGPT en fait partie. On va pouvoir discuter en fait avec l'IA, et notamment des outils où on va pouvoir discuter avec Charles de Gaulle. Donc on va même en histoire. Enfin, il y a des possibilités assez énormes qui se développent, parce qu'on est vraiment, je pense qu'on est à l'année zéro, hein, de l'IA. Alors, en tout cas, d'un point de vue pédagogique, où on commence à trouver tout doucement les usages possibles de cet outil qui permet d'optimiser, qui est assez efficace, qui permet d'optimiser ses pratiques. D'un point de vue pédagogique, là, je reprends un exemple assez récent. On a eu on a fermé l'établissement en partie suite aux intempéries dans l'Oise. Mmh. Et donc, on a travaillé à distance. Voilà, il a fallu travailler à distance avec les enseignants. Et on a pu, à partir de vidéos, donc imaginez un peu le système, on prend une vidéo YouTube. Là, notamment, c'était sur les fractions. Là, on est en train de fabriquer les hôtels à insectes en CM2, donc sur l'usage et l'utilité des hôtels à insectes. On soumet la vidéo à l'IA, à l'intelligence artificielle. Elle va être capable d'analyser la vidéo. Ensuite, vous lui demandez de poser des questions sur cette vidéo, et ensuite de transformer cette vidéo, de transformer ce questionnaire en formulaire. Donc, en fait, vous avez quelque part gagné un temps, assez conséquent. Voilà. Donc, vous allez pouvoir très rapidement proposer ça aux élèves sans avoir, dans la logique, en fait, on regarde la vidéo. Ensuite, on cherche les questions qu'on va poser sur la vidéo, et ensuite on génère le. Voilà, c'est un travail qui est quand même assez long. Et là, vous allez pouvoir réduire ce temps. Après, bien sûr, il faut toujours avoir cette idée qu'il faut malgré tout relire. Il faut qu'il y ait une relecture. L'IA, elle est pas. Elle peut se tromper, elle peut des fois même fabuler. Donc il faut avoir quand même une relecture assez précise quand on fait produire un texte par de l'IA.
Oui, alors ça c'est effectivement une question que j'allais te poser, ça c'est le côté un peu waouh, merveilleux des choses, mais avant de voir justement les failles un petit peu de ces intelligences artificielles. Tu as utilisé quoi comme IA pour justement analyser cette vidéo? Parce que je pense que ça peut intéresser plein de monde, ça.
Alors, j'ai utilisé ChatGPT 4, la dernière version, la version normale payante. Voilà. Et en fait, dans les maintenant ce qu'on appelle les GPT plus, vous avez un plugin, en fait, un outil qui vous permet justement, dans un premier temps, d'analyser la vidéo et ensuite de poser des questions sur cette vidéo. Et vous avez un petit module tout en dessous, enfin, dès qu'en fait le questionnaire est proposé, qui vous permet de transformer directement le questionnaire en formulaire, notamment Google Form, là, qui est quand même fortement utilisé partout, enfin, voilà, dans l'enseignement. Quand on veut avoir des informations, voilà, on va pouvoir utiliser ce type d'outil.
Tout à fait.
Donc c'est dans les GPT plus.
Oui,
Voilà.
donc de la version payante de
Dans la version
ChatGPT.
payante, voilà.
Ok.
Malheureusement, ce n'est pas encore dans la version 3.5, la version gratuite. Et je n'ai pas trouvé encore d'outils suffisants dans Copilot ou Bard. Ça le fait pas encore. Alors c'est capable de produire un questionnaire, mais il ne va pas être forcément capable d'analyser la vidéo dans un premier temps. Donc c'est pas. Voilà. Mais ChatGPT 4 le fait très bien.
Donc effectivement, ces outils de langage eh bien, permettent de créer des textes, de créer des questionnaires, de synthétiser, de résumer des textes, ce qui est d'ailleurs donc plein de choses que nous sommes amenés à faire en tant que chef d'établissement. Et donc parmi les failles un petit peu de ces intelligences artificielles, tu parlais donc de ces fameuses hallucinations, c'est-à-dire le moment où l'intelligence artificielle eh bien, produit quelque chose pour produire. C'est-à-dire que statistiquement, elle cherche le mot qui va venir ensuite, mais étant perdue un petit peu dans toutes les requêtes qu'elle a reçues, eh bien, ou alors parce qu'elle ne trouve pas la réponse, eh bien, elle va inventer une réponse. Pour rester cohérente avec elle-même, et ce qui rend d'ailleurs assez difficile à détecter. Donc ça, c'est des choses que tu abordes aussi.
Oui, bah le petit exemple que j'ai là, c'est sur en fait pour rédiger les commentaires pour les élèves. Alors c'est un outil qui est très très pratique pour ça aussi. C'est-à-dire vous allez donner des mots-clés ou des phrases un petit peu clés par rapport à un élève et ça va être capable, vous allez lui demander de rédiger un commentaire bienveillant sur l'élève en donnant quelques conseils. Voilà, donc il faut bien avoir rédigé son prompt et ça va être capable de vous donner des idées parce que ben, enfin, là, moi, ça fait 25 ans, 25 ans que j'enseigne et puis souvent on a tendance quand même à se répéter. Donc ça vous donne d'autres idées. Par contre, il faut absolument relire ce qui a été produit par l'intelligence artificielle parce que il m'est arrivé quelquefois dans une même phrase, en fait, on a une contradiction entre ce qu'on voulait. Voilà, elle fabule, en fait, parce que, comme tu disais, elle va être capable d'inventer pour pouvoir avoir une continuité, on va dire, logique, de dire tout et son contraire. Donc, il faut vraiment avoir une relecture assez fiable derrière pour pouvoir. Faut pas lui faire confiance entièrement. Voilà, faut pas lui faire confiance. Alors, je pense que c'est en train de ça se développe. Hein. Tout à l'heure, on disait qu'on était à l'année un peu zéro de ces IA génératives qui apprennent aussi des expériences utilisateurs. Hein. Finalement, ça s'auto-alimente. Hein. C'est assez incroyable. C'est même un petit peu magique. Enfin, je ne sais pas s'il faut le dire, mais c'est quelque chose d'assez hallucinant quand même hein, quand on voit les réponses que c'est capable de nous donner. Par contre, voilà, je pense qu'on est encore en phase, alors pas expérimentale, mais voilà, en progression. Mais ça veut dire que d'ici 2, 3, 4 ans, enfin, j'imagine même pas ce que ça va être capable de produire. Là, c'est déjà capable de produire des choses assez intéressantes. Ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, un compte rendu, un conseil de cycle, où on va parler un petit peu des élèves, de taper un compte rendu. Je l'ai fait en CSE à partir d'une prise de notes, par exemple.
C'est-à-dire que là, pendant la réunion, on prend des réunions, on prend des notes sur un document texte. Il suffit juste ensuite de faire un copier-coller, de mettre. Alors, je vais expliquer en même temps ce que c'est qu'un prompt. Un prompt, c'est donc une commande. Et on va taper, par exemple, je dirige l'école, une école catholique. Je dois produire un compte rendu de réunion à destination de telle personne. Donc, je lui explique bien qui je suis. ce que j'attends de lui et ce qu'il doit produire. Et ensuite, je lui donne, fais-le à partir des informations suivantes. Et là, vous collez, on colle ses notes et il va produire un texte. Donc après, il suffit de relire ce qui est écrit, de contrôler qu'il ne raconte pas n'importe quoi. Et voilà.
Et comme tu disais, plus le prompt va être précis, indiqué, donc la personne qui rédige, le destinataire, le contenu, s'il y a une prise de notes, bien dire voilà, qu'on doit prendre en compte les notes, mettre des points par exemple, pouvoir l'organiser. Plus il va finalement obéir à ce qu'on lui demande. Hein, et donc d'avoir quelque chose qui va être tout de suite transmissible aux collègues. Là, je prends donc là, les comptes rendus, les conseils de cycle, les CSE. Enfin, là, on a fait des conseils d'élèves. Un conseil d'élèves, vous allez prendre les différentes notes et ça vous re-rédige pour pouvoir le transmettre après aux collègues, qu'elles sachent ce qui s'est passé dans le conseil d'élèves. Enfin, c'est vraiment un outil qui permet d'optimiser nos pratiques. C'est-à-dire que c'est vraiment on va dire que c'est un peu le c'est un peu notre stagiaire, quoi. Je sais pas
C'est
si on
ça,
peut
j'aime bien ton image.
faire ça. Un peu le stagiaire du chef d'établissement qui va rédiger. Bien sûr, on va relire un petit peu ce que fait le stagiaire, mais voilà, dans l'idée, c'est un petit peu ça. Un copilote, l'idée.
J'aime bien aussi l'idée, ouais, la formulation de copilote. Ouais.
Voilà.
Donc, est-ce que tu as d'autres usages pour le chef d'établissement à proprement dit?
Alors oui, enfin, l'autre exemple, là, justement récemment, là, en tant que chef d'établissement du premier degré, on a eu les évaluations CP à faire,
Ouais.
à passer à nos élèves. Et ChatGPT-4 est capable de prendre les données, vous savez, les données sous forme de feuilles Excel, et de vous faire une synthèse sur ces évaluations. Par exemple, on va lui demander, est-ce que tu peux me faire un diagramme en étoile pour voir un petit peu situer la classe, avoir une vision sous forme de graphique. Et ensuite d'avoir une analyse sur quels sont les points positifs, on va dire les points à travailler avec les élèves, de mettre les élèves en difficulté, quelles sont les difficultés relevées et est-ce qu'il y a des enfants qui vont avoir des besoins particuliers. Et on peut même travailler sur une comparaison, par exemple, entre les évaluations CP début d'année et CP actuellement. Voilà, ça c'est un des outils qui peut être. Parce qu'en fait, dans les évaluations CP, je ne sais pas si vous. Pour ceux qui les font passer, on n'a pas, on a une synthèse, mais une synthèse sous forme de tableau. Là, vous avez une synthèse qui va être produite. On va avoir un écrit linéaire avec. On va lui demander de mettre en exergue en fait certains points qu'on voudrait voir apparaître pour cette analyse. Là, j'ai vu avec mon enseignante du réseau d'aide, et puis forcément la collègue de CP qui a lu le résultat de l'analyse, qui a dit que c'était exactement le profil de sa classe. Voilà, donc vous avez ce type d'exemple. Qu'on a pratiqué aussi là récemment. On est, alors je ne sais pas si vous avez, si ça vous est arrivé, mais on est en évaluation d'établissement. Donc là, c'est l'ensemble scolaire qui est évalué. Et donc on doit produire en fait des formulaires à destination des parents, des enseignants, des personnels OGEC, voilà, des élèves pour le collège. Et cette analyse, l'analyse des retours en fait, qui des fois peut Vous avez 250, 260 entrées, hein, ça dépend du nombre d'élèves que vous avez dans votre établissement. Donc, c'est une analyse qui est quand même assez importante à mettre en œuvre, qui demande du temps. Bah là, en fait, ChatGPT va être capable de reprendre. Pareil, vous avez demandé quels sont les points forts de l'établissement à partir de votre formulaire, quels sont les points faibles, et donc de pouvoir tout de suite mettre en exergue ce qu'il va falloir travailler, ce qui est en cours. Voilà, une analyse assez pertinente du. Et alors, pareil, on a revérifié, et c'est assez intéressant. Un autre exemple aussi d'usage, on a travaillé, vous savez, sur les CSP de l'établissement, voir un petit peu, en fait, comparer nos CSP, puisque c'est une demande justement d'évaluation d'établissement, comparer nos CFP avec des données nationales, ben, c'est capable de vous faire cette comparaison, dire, voilà, vous êtes situé à 1% au-dessus, vous avez des cadres 1% au-dessus, 1% en dessous. Voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose quand même de rapide, une analyse rapide. Et puis pareil, ça vous permet de retravailler le texte. Là, on doit produire un compte rendu, on retravaille le texte aussi à partir de cet outil-là. Donc c'est une aide, en fait, c'est vraiment l'aide pour le chef d'établissement. Alors au-delà de ça, on peut aussi, moi je le fais assez régulièrement, par exemple, produire des réponses à des mails. Hein,
Oui,
des
alors
mails
ça, oui.
Voilà, ça c'est assez intéressant. Vous allez donner en fait dans le prompt, dire donc pareil, vous êtes comme tu disais, hein, vous êtes chef d'établissement, je suis chef d'établissement premier degré d'un établissement catholique. Je réponds positivement à cette demande, réponds positivement à ce mail, voilà, et vous donnez le mail, il va être capable de répondre. Voilà. Après, pareil, toujours, il faut observer, relire le mail, mais après, vous pouvez très rapidement le renvoyer, faire un retour. Donc ça, c'est assez important.
J'ai remarqué quelques biais, parce que comme l'apprentissage de ces IA s'est fait sur de nombreux textes anglophones, il a des formulations un peu anglaises parfois. Donc, oui, alors ça c'est très très pratique, hein, parce que moi, des fois quand j'ai des mails un peu longs de parents qui se plaignent, etc., et que je veux pas. J'aurais tendance à m'embarquer dans des explications soit trop courtes, soit trop longues. Et bien, effectivement, en précisant le ton qu'on veut utiliser, en précisant, on peut aller jusqu'à préciser le nombre de mots qu'on veut utiliser, etc. Bah, ça permet de donner une réponse à des familles qui restent très propres, quasi irréprochables, mais qui disent ce qu'elles ont à dire, quoi. Alors, le fait.
Ça, dans le cas d'une information aux parents, là je reprends notre petit mini confinement lié aux intempéries. Pareil, avec le chef d'établissement du second degré, on a fait un mail commun pour dire qu'on proposait les cours à distance, etc. Donc on a rédigé, on a demandé à ChatGPT de nous rédiger ce type d'écrit, et après nous on l'a transformé pour mettre nos dates. Voilà, mais donc voilà, en fait c'est un déclencheur aussi. Et même au-delà de ça, on peut aussi demander à ChatGPT de nous conseiller sur la production d'un texte. Alors ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'un. Enfin, vous êtes sur un mail et puis voilà, vous dites, je voudrais que tu développes. Qu'est-ce qu'il faudrait que je développe pour pouvoir convaincre cette personne? En fait, il va vous donner les différents arguments, les différentes recherches ou les différents prompts qui vont vous permettre d'améliorer votre écrit. Donc ça, c'est assez incroyable aussi. C'est-à-dire que c'est aussi capable de vous conseiller. Donc en fait, même là, là on peut le transposer aux élèves, où ça peut être aussi quelque part une forme de tutorat. On pourrait imaginer en classe un tutorat par le biais d'une IA générative.
Alors, je connais de façon très proche certains élèves de collège et de lycée et qui ont par exemple un exercice d'allemand, tout à fait au hasard, prennent donc mettent j'ai eu tel exercice en allemand, propose-moi d'autres exercices. Et cloc, ils vont avoir une suite d'exercices et ils vont pouvoir continuer à s'entraîner, puisque ChatGPT va quand même leur proposer ou Bard d'autres, enfin les réponses, quoi.
Voilà.
Et c'est pareil,
Autrement dit.
tiens, j'ai en français, le prof m'a dit que cette phrase n'était pas correcte. Eh bien, il va lui expliquer pourquoi la phrase n'est pas correcte. Donc, si le
Il
prof n'a pas eu
va
le
vous
temps de tout expliquer,
corriger en écrit. Ou des programmes, enfin l'année dernière, là c'était plus pour mon fils, des programmes de révision. Voilà, où par exemple, on va lui demander, je suis un élève de troisième, est-ce que tu peux me proposer un programme de révision pour le brevet dans telle matière? En fait, il va être capable de donner, même de façon temporelle, hein, qu'est-ce qu'il va falloir réviser à tel moment. On a même, en début d'année, là, pour reprendre un petit peu, on a demandé à ChatGPT de nous faire une progression en anglais. Notamment par rapport au rituel. On a décidé d'installer en cycle 3 en fait des rituels, mais on voudrait que ça change, ça soit pas toujours le même type de rituel. Donc on lui a demandé de le séparer en périodes, et il nous l'a fait assez de façon assez intéressante. Donc on lui demande de faire un tableau en mettant les compétences travaillées, et il est capable de vous rédiger. Donc même pour là, enfin je pense là à nos enseignants débutants, quelquefois ça peut être aussi une belle aide à la mise en place de pratiques pédagogiques dans leur classe, hein. Mais ça peut même aller, on va dire, jusqu'à rédiger peut-être certaines fiches de préparation. Moi, je l'ai déjà fait en formation, par exemple, pour le tester, pour l'utilisation de Scratch en programmation. Est-ce que tu peux me rédiger? C'est la première fois que j'utilise Scratch. Est-ce que tu peux me proposer une fiche de préparation pour débuter avec Scratch en cycle 3? Il va être capable de vous produire un écrit. Après, à nous, bien sûr, en tant qu'experts, de le transformer, de le travailler, mais ça vous donne une entrée, en fait. On n'a plus de problème de page blanche. Ouais.
Et alors moi j'ai fait aussi à l'inverse, c'est un outil qui aide beaucoup à la réflexion, je trouve, parce qu'il va proposer des réponses auxquelles on n'a pas pensé ou poser des questions auxquelles on n'a pas pensé. Et par exemple, je lui dis, tiens, je travaille sur tel sujet, je vais parler de ça, de ça, de ça. Enfin, je lui donne tout le contenu, j'allais dire. Et je lui dis, quelles sont les questions que, par exemple, des enseignants de premier degré vont me poser? Et là, il va me sortir une dizaine de questions ou plus. Hein, et là, je peux lire et je me dis, ah bah tiens, oui, effectivement, peut-être que j'expliquais un peu plus ça, ou peut-être que là, c'est pas clair.
Ah, ça donne des vraies pistes de réflexion. Un autre exemple un petit peu autour de un petit peu qui correspond à ce que tu, à ce que t'as, ce que tu proposais dans le cadre d'un laboratoire des initiatives qui est organisé au niveau national, me semble-t-il. Donc là, nous, on est sur une mission particulière sur les lieux de parole, voilà. Et donc j'ai demandé à ChatGPT d'élaborer un ensemble de questions, de problématiques, on va dire, et de trouver un maximum de problématiques et de questionnements autour de ces lieux de parole. Et ben, il m'a produit un texte à tout un tas de questionnements qui finalement, moi, m'ont éclairé, m'ont guidé en fait vers certains types de questions auxquelles j'aurais même pas pensé.
C'est
Donc
ça.
voilà. Donc ça, c'est une aide précieuse en fait. Et puis alors, enfin vraiment, en tout cas pour l'utiliser depuis un petit bout de temps, là, depuis que ça a été mis en place, on optimise notre temps de façon. Enfin, on gagne du temps, énormément de temps. Tout dépend de sa façon de gérer le prompt. Au début, c'est un peu ingrat parce qu'on dit, bon, j'ai cru, puis ça marche pas super bien parce qu'en fait, on n'a pas, comme tu disais tout à l'heure, signifié qui on était, on n'a pas donné le destinataire, la façon dont on voulait que ça soit rédigé, le ton. Voilà, il faut donner quand même un max beaucoup d'informations, même quitte à entrer des éléments qui permettent d'affiner en fait, d'affiner la réponse de ChatGPT. Mais au début, ça peut être un peu, on est un peu déçu. Enfin, moi, j'avais été la première chose que j'ai rédigée, j'avais été un peu déçu par ce qu'il avait produit. Et puis là, maintenant, je le suis de moins en moins parce que on
Ça
devient des experts
s'affine.
du prompt.
Et puis, il y a quand même une différence entre la version 3.5 et la version 4. Et puis, ça s'affine petit à petit, puisque ça s'auto-améliore, ou en tout cas, on peut lui dire si la réponse elle nous satisfait ou pas. Enfin, tout ça, il enregistre un petit peu tout ce qu'on fait aussi, pour pouvoir s'améliorer.
Ouais, tout à fait.
Bien, écoute. Merci. Et si on veut continuer la discussion avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver dans le monde de l'Internet?
Alors, sur X, enfin Twitter, donc arrobas JIPSOU, Jipsou, voilà, ça. Après sur LinkedIn avec Jean-Philippe Solanet, et puis peut-être directement sur le pouvoir, on peut nous contacter sur le site de l'école, peut-être, ça peut être sympa aussi.
Sympa aussi.
Donc www.icmeru.fr.
Et
Voilà,
bah je
où normalement les adresses sont disponibles. Et là, juste, en fait, on a découvert aussi une petite application juste pour qui s'appelle Magic School. Alors qui est payante, mais qui permet de répondre à l'ensemble. Donc c'est ma Magic MagicSchool.ai et qui permet de répondre à l'ensemble de nos besoins pédagogiques. Enfin, par exemple, il y a une application qui est très très intéressante dans Magic School. C'est en fait, on va te dire, on a un élève dyslexique, on va donner en fait la problématique, et ça va être capable de vous mettre en place un dispositif, de rédiger un dispositif pour cet enfant en particulier. Donc on arrive même vers de la différenciation pilotée un peu par l'IA. Bon, toujours vraiment en prenant la mesure de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant par rapport à à sa rédaction, hein, ça ne reste qu'une intelligence artificielle, voilà, c'est pas.
Tout à fait.
Mais voilà, ça nous aide, ça nous aide, ça optimise nos pratiques.
Très bien. Est-ce que tu aurais un ouvrage à nous proposer?
Là, non, pas forcément.
Non.
Je crois que j'ai pas de mémoire. J'ai vu qu'il y avait un PDF qui était sorti, mais je l'ai plus en tête justement sur l'IA et les différentes recommandations, notamment voilà les forces et les faiblesses de l'IA et les usages en pédagogie. Mais j'ai plus de tête
Non, c'est pas grave. Si ça te
l'origine du
revient, je la
PDF.
mettrai dans les notes. Très bien, un grand merci à toi.
Pas de souci, merci à toi.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode que j'ai trouvé passionnant avec Jean-Philippe. Et j'espère que cette discussion sur l'intelligence artificielle va t'apporter des éclairages nouveaux et qu'ils seront utiles dans ta pratique. Et avant de nous quitter, je tiens à te rappeler quelque chose de spécial. Si tu souhaites aller plus loin ou découvrir d'autres aspects du quotidien d'un chef d'établissement, eh bien je t'invite à t'inscrire à ma lettre mensuelle. Et dans cette lettre, eh bien, j'y partage des expériences personnelles, des astuces pratiques, des réflexions sur le métier qui, je l'espère, te seront bénéfiques pour ta pratique professionnelle. Voilà, pour t'inscrire, eh bien, il suffit de se rendre soit sur mon site internet, soit sur les notes de l'épisode. Et puis, je mettrai aussi tout ce dont on a parlé avec Jean-Philippe. Merci d'avoir écouté Leader dans l'enseignement catholique. N'oublie pas de t'abonner au podcast. Nous voici à la fin de cet épisode de Leader dans l'enseignement catholique. J'espère que les discussions et conseils partagés aujourd'hui t'ont été bénéfiques et t'inspireront dans ton quotidien. Assure-toi de t'abonner pour rester à jour avec tous nos futurs épisodes. Ton avis est essentiel pour l'évolution de ce podcast. Je t'invite donc à partager tes réflexions, tes questions ou même à proposer des thèmes que tu aimerais voir abordés lors de nos prochaines émissions. Tu peux exprimer tout cela en laissant un commentaire ou en me contactant directement. Si tu as trouvé de la valeur dans l'épisode du jour, partage-le avec d'autres chefs d'établissement et amis dans le domaine. Merci de m'avoir accordé de ton temps aujourd'hui et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission enrichissante de Leader dans l'enseignement catholique. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.